Chapitre 60. Serge avait déjà franchi le seuil et s'était engagé dans le couloir de l'habitation. Une paire de gants enfilés, Franck observa les nombreux verrous sur la porte défoncée. Le méticuleux avait une obsession manifeste pour la sécurité et s'avança à son tour dans l'appartement. Ils étaient chez lui, enfin, dans l'antre du monstre. Rien qu'à cette idée, Charcot sentit ses poils se dresser. La puissance des lampes allumées était étrangement faible. Le carrelage se décollait par blocs dans la cuisine en raison de l'humidité manifeste des murs. Un frigo ronronnait dans un coin, à côté d'une dizaine de piles de conserves, de paquets de pâtes et de riz. Au milieu de la table traînait une boîte de gants en latex neuf, ainsi qu'une large ceinture en cuir aux pochettes remplies d'outils de précision. Tournevis, crochets de poche, rossignols artisanaux, extracteurs de cylindres. David Merlin s'apprêtait-il à un nouveau passage à l'acte? Charcot ouvrit le réfrigérateur, jambon, saucisse, yaourt nature, et se dirigea vers la fenêtre qui offrait une vue plongeante sur les voies, les caténaires, le fouillis des câbles électriques en contrebas. Un train de banlieue circulait au ralenti, gorgé de la masse des travailleurs. Ce logement, c'était le repère d'un invisible, d'un oublié, d'un individu noyé parmi d'autres dans le gris des tours et des HLM alentours. La tanière parfaite d'un tueur anonyme. L'inspecteur ressortit de la pièce frigorifié. Il posa une main sur le chauffage qui ne diffusait presque aucune chaleur. Santucci se tenait juste là, à sa gauche, figé devant la salle de bain. Une lueur couleur de lave donnait une étrange texture à son visage creusé de rides. « Une chambre noire, » fit-il. Odeur de solvant, partout au sol sur le lavabo, en hauteur, des liquides dans des bouteilles, des bacs, du papier photosensible. Une ampoule rouge à lumière inactinique pendait au plafond. Des pinces pour accrocher les photos pendaient à des fils tendus au-dessus de la baignoire à l'émail jaunâtre. Franck fouilla l'armoire qui contenait des savons, des produits de toilette, des rasoirs jetables, observa les différents flacons. Plusieurs d'entre eux, tous identiques, attirèrent son attention. C'étaient de tout petits échantillons remplis d'une substance marron. Il en déboucha un avec prudence et renifla. « C'est quoi ?» demanda Santucci. « On dirait de la colle. » Le Corse huma à son tour et acquiesça. Charcot repéra un cliché qui avait dû tomber et se perdre, coincé entre le mur et la poubelle. C'était le gros plan d'une bouche tordue, des lèvres masculines qui semblaient pousser un interminable cri. L'objectif se situait à quelques centimètres seulement du sujet. Il tendit la photo à son chef. « C'est lui, tu crois ?»« T'en sais rien, probable. On est ici dans sa tête, dans son esprit dérangé. » Santucci abandonna la photo dans le lavabo, et ils gagnèrent le salon, tout aussi mal éclairé. Les volets roulants étaient baissés. Serge circulait déjà entre des dizaines de mannequins, de ceux qu'on contemple dans les vitrines des magasins. Une foule silencieuse, pétrifiée comme dans un cauchemar. Les faces en plastique des hommes étaient maquillées, leurs silhouettes vêtues de robes ou de chemisiers, leurs pieds chaussés d'escarpins à talons. Les mannequins féminins, en revanche, avaient tous, sans exception, le visage, la poitrine et l'entrecuisse brûlées. « Quel taré !» grommela Amandier. « Quel putain de taré !» Franck ne répondit rien. Malade, dégénéré sans doute, mais aussi réfléchi, organisé. Et c'était en soi assez illogique. Comment pouvait-on être psychiquement à ce point déséquilibré pour vivre ici au milieu de mannequins mutilés ou travestis et demeurer si lucide, si méticuleux? En tout cas, tant qu'il ne l'avait pas attrapé, il ne fallait pas le sous-estimer. Sur une petite table se trouvait un verre d'eau, un emballage de sandwich et un paquet de chips entamés. Le sol était encombré de caisses bondées de masques effrayants, de poupées nues et empilées dont certaines avaient la tête séparée du tronc, d'appareils photo et de leurs objectifs. Un mini-chalumeau ainsi que deux recharges de gaz reposaient sur un tabouret. Et le reste du mobilier était envahi d'objets. Des Vénus au corps difforme, des fétiches à la bouche immense, des statuettes de divinités, des personnages en tissu piqués d'aiguilles comme on en trouvait sur les terres haïtiennes. Franck remarqua des tableaux appuyés contre une chaise, des animaux hybrides, des formes cauchemardesques. David Merlin avait dû les prélever chez Delphine Escrémieux en guise de souvenir. Serge poursuivit sa fouille en explorant les tiroirs d'un meuble, tandis que le Corse et Charcot allaient explorer la seule chambre. Étonnamment épurée, juste un lit fait au carré et une armoire. Des murs bégeâtres, vierges de toute décoration, dont la peinture s'écaillait. Des piles ordonnées de vieux livres alignés le long d'une plinthe, directement par terre. Le jeune inspecteur en piocha quelques-uns. Des classiques de science-fiction, mais aussi des ouvrages anciens de magie. Les secrets de Théodore Hahnemann, Houdini, la légende, les clés de la manipulation, réussir vos forçages. À l'intérieur, des passages soulignés ou stabilotés avec soin. Frank découvrit également des manuels techniques de chimie, de biologie, de médecine légale. Dans le placard, des jeans, des chemises, des pulls en laine et des sous-vêtements rangés à la perfection. Il dénicha même plusieurs casquettes, couleurs sombres, passe-partout. L'ordre qui régnait ici contrastait avec la pagaille du salon. « Continue à fouiller avec Amandier, » annonça Santucci. « Je redescends pour contacter l'état-major, solliciter Ligi et organiser la planque. Le serrurier va finir par se pointer. On doit à tout prix le serrer. Hors de question qu'il nous file entre les doigts. » Frank resta un instant dans la pièce. Il visualisa David Merlin allongé sur ce lit à une place, dans la chambre aveugle d'une barre d'immeuble affreuse. Le brouhaha de l'extérieur à rendre dingue. L'horreur. Néanmoins, quel meilleur endroit que celui-ci pour attiser la colère, la haine, pour se consacrer à plein temps à son plan sordide. Il retourna dans le salon au milieu des longues silhouettes immobiles. Il scruta cet étrange agencement, des regards qui ne se croisaient jamais, des mains levées comme si cette tribu maléfique avait été stoppée en plein mouvement. Le méticuleux avait travesti les hommes sans les violenter, mais il avait cramé le visage et le sexe des femmes. Charcot essayait d'y voir clair. Leur assassin détestait visiblement ces dernières. Non pas leur apparence, sinon il n'aurait pas habillé ni maquillé les hommes de cette manière. Non, c'était le fait même d'être une femme qui lui répugnait. Il ne supportait pas les individus dotés d'organes sexuels féminins, et il les détruisait. Le renvoyait-elle à l'image d'une mère qu'il exécrait? Y avait-il un lien avec les actes pédophiles d'Andréas Rémieux? Avait-il engendré chez lui un profond traumatisme? Un bip le tira de ses pensées. Son équipier venait d'appuyer sur le bouton du répondeur téléphonique. Ils écoutèrent la bande préenregistrée par le tueur. Un timbre assez grave, indébilant.
C'est David Merlin. Je suis absent pour l'instant. Laissez un message et je vous recontacterai.
Immédiatement après, une voix numérique prit le relais.
Vous avez un message.
Puis quelqu'un se mit à parler. Des syllabes jaillirent à un rythme délirant. Le monologue dura 20 secondes, et les flics n'en comprirent pas un traître mot.
C'est complètement incohérent, ça n'a pas de sens, c'est quelle langue ?
Frank observa l'heure et la date indiquée sur l'écran.
Aucune idée. L'appel a eu lieu la nuit dernière, au moment où je passais un sale quart d'heure avec Souffrant. On dirait une femme. Pour moi, c'était plutôt un mec.
Les deux flics réécoutèrent de nombreuses fois le message, dubitatif, et ne parvinrent pas à se décider. Ça allait trop vite et la voix était trop ambiguë. Un nouvel élément qui s'ajoutait à l'incongruité de la situation. Ils finirent par abandonner et se rendirent au fond de la pièce. De sa main gantée, Serge désigna les tiroirs ouverts d'un vieux vaisselier.
J'ai jeté un coup d'œil dans tous les meubles, y a rien de personnel dedans. Pas de facture, de courrier, pas même un ticket de métro, ni photo, ni souvenir. C'est bizarre, j'ai jamais vu un truc pareil. Comme si le méticuleux habitait là, mais pas vraiment non plus. Tu comprends ce que je veux dire ?
Amandier avait raison. Hormis les bouquins, Franck n'avait pas aperçu la moindre paperasse dans la chambre ou la cuisine. Et pourtant, il se trouvait chez lui, sans l'ombre d'un doute. Qu'est-ce qui clochait ? Le jeune inspecteur s'orienta vers l'angle le plus proche de la fenêtre, où un coin bureau avait été aménagé. Sur une table ronde en bois s'amoncelaient des quantités d'exemplaires neufs des fleurs du mal, des enveloppes vierges, des rames de papier accolées à une machine à écrire Underwood. Il y découvrit aussi une pile de prospectus et de lettres au nom et à l'adresse de Delphine Escrémieux dans le Marais.
C'est lui qui a vidé sa boîte aux lettres pendant qu'elle peignait à Saint-Forget. Il voulait être certain que celui qui devinerait le bon prénom en premier tomberait uniquement sur le cliché de la scène de crime en ouvrant la boîte.
Charcot se pencha vers la corbeille, vide. Puis il parcourut un ensemble de feuilles agrafées posées près des livres et se tourna vers son coéquipier.
Je l'ai, la liste de ceux qui ont reçu le recueil de poèmes. Fais voir.
Son collègue s'empara du document avec empressement.
Vasquez, Martinage, Lampin et un tas d'autres avec les adresses. Il a dû photocopier ça dans le registre de la serrurerie Flamin.
Charcot s'intéressa au cahier rangé à droite de la machine à écrire et d'un pot de matériel de bureau. Des centaines de bouches avaient été prélevées dans des magazines et collées pêle-mêle jusqu'à en faire disparaître la couverture rigide. Il l'ouvrit. Sur la page qui se dévoila à lui, une affichette de spectacle qui avait selon toute vraisemblance été arrachée à son support vu l'état. Elle représentait un visage de femme dont les yeux et la bouche avaient été découpés. Autour de l'ample chevelure noire volaient des cartes de jeu et des pétales de rose. Pas de date, mais une légende. Circé la magicienne, soirée mentalisme, au millionnaire. Retrouvez-la mardi dans votre cabaret.
Regarde ça, lâcha-t-il à voix basse, comme s'il avait peur que les mannequins puissent l'entendre. C'est la magicienne que Florence a rencontrée hier et convoquée au 36, celle vers laquelle David Merlin nous a progressivement orientés.
Serge se pressa contre Franck alors que celui-ci continuait de feuilleter le cahier. Les deux policiers, médusés, contemplèrent des schémas griffonnés, des flèches qui reliaient des têtes à des photos de lieux. Ils reconnurent Delphine Escrémieux et ses logements de Saint-Forger et du Marais, Hélène Lemaire et son pavillon d'Elbeuf, Madeleine Souffrant et sa boutique, André Escrémieux et sa maison de Château. Il y avait aussi un homme, la soixantaine, crâne dégarni, stries verticales aux joues comme des branchies de requin, associé à une belle demeure de campagne. Il avait été positionné à côté d'André Escrémieux, et un trait de stylo noir indiquait clairement qu'il existait un lien entre eux. Charcot le désigna de l'index.
« Tu sais de qui il s'agit ?»«
Jamais vu. »
Ces collages et fléchages avaient dû aider David Merlin à élaborer son scénario, à planifier les enlèvements, les meurtres. Franck tomba ensuite sur de longues pages de texte entrecoupées de clichés plus ou moins flous. Des rues anonymes, des gens, des rames et des couloirs de métro, des immeubles. L'écriture était nerveuse, en pattes de mouche. Il en lut des passages.
Écoute ces divagations. Aujourd'hui, un type dans la rue a tiré sa fille par le bras d'un coup sec quand il traversait. La petite s'est mise à pleurer, et plus elle pleurait, plus il la tirait fort. J'ai eu envie de lui planter un couteau dans le ventre. Et là, tout autour d'une image de l'église de Saint-Forger. Il faisait bon vivre à Saint-Forger, une jolie ville nichée dans un beau parc naturel, avant que tout cela n'arrive. Les habitants se croyaient à l'abri, protégés de la crasse. Ils se croyaient différents. Mais la crasse comme les ombres sont partout, et ces ombres les ont rattrapés.
Serge se fit une place pour lire lui-même par-dessus l'épaule de son collègue.
« Il est vraiment dingue, » souffla-t-il.
« Et il y a des dizaines et des dizaines de lignes de ce style. Nous sommes tous pareils à des cafards entassés dans des boîtes à chaussures. La plus grande difficulté est d'éliminer les mauvais cafards et de garder les bons. Mais comment distinguer la bonne merde de la mauvaise merde ? Putain, j'ai vraiment hâte qu'on le chope. Je veux voir sa tête et comprendre comment on peut être barge à ce point-là. »
Plus loin, de nouvelles prises de vue étaient collées avec soin. Delphine Escrémieux de face, de profil, de dos, en train de monter dans sa voiture, à la sortie d'une boutique de chocolat du Marais, ou en bas de chez elle. Une copie de la photo où elle était enfant, nue, trônée au beau milieu. Page suivante, le père cette fois, André Escrémieux. Des portraits récents, mais pas seulement, car un cliché plus ancien occupait le centre. Sur ce dernier, le médecin avait une quarantaine d'années, il était en blouse et accompagné de collègues. Serge plissa les yeux, puis désigna l'un d'eux.
L'inconnu au crâne dégarni est juste à côté de lui. Les deux hommes bossaient visiblement ensemble.
Franck observa attentivement.
À l'hôpital Meurin, sans doute.
Et on retrouvait le même individu ensuite. À son tour, il avait été immortalisé dans diverses situations de la vie courante. Sur un terrain de tennis, marchant au bord d'un lac, promenant un chien en laisse. Et pour lui aussi, la photo de groupe occupait le centre. Le cahier se terminait sur Hélène Lemaire. Comme les autres, David Merlin l'avait traqué avec son appareil. Et à ce travail s'ajoutait, là encore, une référence au passé. Sur une vieille photo de classe jaunie, les visages de tous les élèves avaient été découpés, excepté un dans la première rangée. Une jeune fille souriante. On devinait des montagnes au fond.
C'est le maire. Elle a quoi, 13-14 ans ?
Franck se pencha, frôla du bout des doigts les cercles vides qui remplaçaient les autres figures.
Il les a tous fait disparaître, sauf le sien.
Serge fixa l'étrange cliché. Il n'y avait aucune indication, ni de lieu, ni de date. Mais si Hélène Lemaire était aux portes de l'adolescence, ça devait remonter au milieu des années 70. À court d'idées, ils retournèrent en arrière dans le cahier jusqu'à l'inconnu au crâne dégarni.
J'ai bien peur que ce type ne soit sa prochaine victime. Prochaine dans le meilleur des cas. Parce qu'il est peut-être déjà trop tard. Attends deux secondes.
Franck alla chercher le gros plan de la bouche tordue dans la salle de bain. Cette bouche qui paraissait hurler au secours au cœur des ténèbres, puis le plaça à côté d'un des portraits de l'anonyme.
« À ton avis ?» questionna Charcot. « J'en sais rien, difficile à dire. Mais c'est pas bon signe tout ça. »